Bonsoir. Un seul grand thème au cours de cette émission. Il s'agit de la publication hier jeudi par la CENI du calendrier global des élections présidentielles, législatives, municipales et locales en RDC. 27 novembre 2016, présidentielle couplée à la législative. 7 décembre, annonce des résultats provisoires. 20 décembre 2016, prestation de serment du président élu. C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Trois confrères participent à cette émission. Laurette Mandala, rédactrice en chef à Africa TV, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Laurette.
Bonsoir.
Solange Lusikonsimire, éditrice du journal Le Souverain paraissant à Bukavu, au Sud-Kivu, et deuxième vice-présidente nationale de l'UNPC. Solange Lusiku, bonsoir.
Bonsoir confrères, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Et Daniel Safou, éditorialiste du journal Point Saillant Plus, un bi-hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Bonsoir Daniel.
Bonsoir confrères.
Bienvenue à tous dans votre émission. Pour commencer, suivons comment la presse quinoise a traité ce sujet et entré à la publication du calendrier électoral global par la CENI dans cette revue de presse que nous présente Guy Maté.
La presse quinoise de ce vendredi fait état de la publication hier jeudi par la CENI du calendrier global des élections en RDC. Sous le titre « Élections, le calendrier global enfin là », le potentiel parle de l'annonce par la CENI de la publication du calendrier global des élections incluant toutes les étapes, des municipales jusqu'à la présidentielle, comme d'un coup de tonnerre qui met fin à un jeu de cache-cache. Cependant, relève pour sa part la prospérité, les coûts globaux de ces élections est estimé par la CENI à plus d'un milliard de dollars américains. Selon le journal, ce calendrier global projette les élections présidentielles et législatives nationales au 27 novembre 2016, celles des députés provinciaux, des conseillers communaux et conseillers des secteurs chefferies au 25 octobre 2015, celles des sénateurs élus au second degré au 17 janvier 2016, celle des conseillers urbains, bourgmestres et chefs de secteur au 20 janvier 2016, des gouverneurs et vice-gouverneurs au 31 janvier 2016 et celle des maires et maires adjoints au 7 mars 2016. Le journal du groupe L'Avenir, qui voit des contraintes connues de tout le monde, estime qu'il n'est point besoin d'être distrait ou de s'engouffrer dans le dilatoire. Le journal appelle l'opposition politique à s'organiser pour avoir ses candidats aux différents scrutins, tout en rappelant qu'elle a été incapable jusqu'ici de se choisir un porte-parole devant fédérer leur desiderata. Enfin, le Phare titre à sa une, publication hier du calendrier électoral global et nouveau président le 20 décembre 2016. Se référant au calendrier tel que publié par la CENI ce jeudi, ce quotidien rappelle que le nouveau président de la République démocratique du Congo à choisir à partir des urnes le 27 novembre 2016 prêtera serment le 20 décembre 2016. Selon ce calendrier, le corps électoral sera convoqué le 20 septembre 2016, conformément à la Constitution qui prévoit qu'il le soit 90 jours avant la fin du mandat présidentiel.
Merci Guy Maté. Je rappelle que Laurette Mandala, vous êtes rédactrice en chef à Africa TV, une télévision privée qui est née depuis Kinshasa, avant que l'on aborde ces sujets dans les détails tout à l'heure. Mais l'actualité, c'était aussi pendant la semaine l'inauguration du bateau ITB Kokolo. Ça, c'est pratiquement la relance du transport lacustre et fluvial en RDC.
Oui. Avec l'IBT Kokolo, nous étions très heureux de voir que le gouvernement s'est investi à réhabiliter ce bateau. Cela va permettre aux Congolais de résoudre plusieurs problèmes. Nous avons eu plusieurs naufrages sur le fleuve, il y a eu plusieurs morts, il y a même eu des familles qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas retrouvé les corps de leurs proches. Et avec ce bateau, cela va permettre aux Congolais de voyager dans de très bonnes conditions. Nous avons même appris que ce bateau avait 9 chambres froides. Cela est un avantage pour nous. Nous aurons du poisson frais qui nous parviendra de Kisangani,
de
Boyoma,
de
Mbandaka, ainsi de suite. Donc c'est une très bonne chose. Mais il faudra que le coût du voyage soit à la portée du Congolais moyen.
Daniel Safou, vous êtes éditorialiste du journal Point Saillant Plus, un bi-hebdomadaire paraissant à Kinshasa. C'est un plus dans la relance même du transport lacustre et fluvial en RDC, disait Laurette Mandala. Quelle est votre analyse?
C'est encore rien. Aujourd'hui, nous ignorons, nous sommes combien dans ces pays. Les statistiques, souvent, les approchent 60 millions. Non, on serait déjà au-delà des 60-70 millions. Le Congo, c'est un grand pays. On est vaste. Un pays à la dimension continentale. Un bateau, ça ne suffit pas. C'est un bateau réhabilité. Nous avons besoin des innovations. Je suis d'accord avec Madame Laurette, c'est bien bon qu'on réhabilite un bateau qui peut nous servir. C'est-à-dire que réhabiliter la voie fluviale, qui est d'ailleurs inexistante. Mais alors, la question fondamentale est là. Est-ce que ce bateau-là pourra répondre aux besoins de toute la population que nous sommes? Non, ça ne suffit pas. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce que le gouvernement doit faire, oui, c'est bien bon de réhabiliter ce qui a été foutu, mais qui nous amène aussi des bateaux. Est-ce que c'est impossible que ce gouvernement puisse nous acheter un bateau à la dimension de Kokolo? La question reste posée, n'est-ce pas, au gouvernement?
Et donc, il faut beaucoup d'efforts.
Non, ça ne suffit pas. Un seul bateau pour un Congo, pour un grand pays pour le Congo, comme le Congo, c'est insignifiant. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Si nous tous, nous voulons, n'est-ce pas, se rendre à Kisangani avec Kokolo, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir, il n'y aura pas de place. Ça, c'est de un. De deux, je crois que ces bateaux-là doit répondre aux exigences, n'est-ce pas, du citoyen moyen. Ça ne doit pas être un bateau, n'est-ce pas, de ceux qui nous dirigent. Quand il s'agit des ministres, quand il s'agit des... Non. Parce qu'en fait, c'est pas seulement les pouvoirs ou ceux qui dirigent qui doivent bénéficier des infrastructures du pays. Non. Les petits citoyens, les citoyens moyens doivent accéder à ces bateaux en tant que tels, évidemment avec un coût réduit. Je pense, je m'aurais terminé par là,
oui.
Nous saluons, n'est-ce pas, l'initiative du gouvernement, qui est d'ailleurs habitué à réhabiliter, toujours à réhabiliter, qui nous amène de nouveaux bateaux.
Voilà.
On va encore plus apprécier ces gouvernements.
Voilà. Solange Lucie Kounsimiré, vous êtes éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu, au sud Kivu, et deuxième vice-présidente nationale de l'UNPC. Quelle est l'actualité à Bukavu? Avant ça, il y a une actualité qu'on a diffusée sur Radio Kapi concernant Bukavu. Vous savez, samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il y a un couple spécial qui va se marier, un homme âgé de 130 ans et une femme âgée de 96 ans vont s'unir ce samedi.
Oui, nous sommes tous informés de ce mariage qui sort de l'ordinaire qui aura lieu dans la commune de Kadutu. En tout cas, même moi aussi, je suis curieuse d'y aller pour aller voir ces amoureux vraiment du troisième âge, comment ils vont célébrer ce mariage. Mais également, ça c'est une joie de voir que des gens, vraiment, soir de leur vie, décident de régulariser leur union devant Dieu. C'est une bonne chose et c'est à encourager. Cependant, il y a quand même une mauvaise nouvelle à Bukavu. Ça date d'une semaine, mais je trouve que c'est encore d'actualité. Il y a eu un incendie criminel ici à Bukavu où nous remarquons que la méchanceté a même dépassé les limites du supportable, de l'imaginable de l'homme. Donc, les gens considérés comme des malfrats ont incendié une maison d'habitation en aspirant de l'essence partout autour de la maison, après avoir cadenassé l'extérieur, bloqué tout ici. Six enfants et leur maman ont péri dans cette maison-là. C'est quand même une actualité qui donne de la chair de poule aux gens quand on s'imagine le degré de cette méchanceté-là.
Merci Solange Sikou. Laurette Mandala, une autre actualité, c'est Christopher Ngoï, activiste des droits de l'homme, qui a été présenté cette semaine devant le ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, et d'autres membres du gouvernement. Il y a 10 charges retenues contre lui, notamment incitation à la violence, ainsi de suite. Comment vous avez analysé cette actualité au niveau de votre rédaction?
L'affaire Christopher Ngoï, d'abord je dirais que nous avons été très heureux que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur présente Christopher Ngoï. Il a tenu à essayer un peu de nettoyer l'image du gouvernement en le présentant vivant, parce qu'on se demandait où était cet homme.
Il
était porté disparu, il a été enlevé et nous connaissons son état de santé. Nous apprenons qu'il est suivi régulièrement par le médecin. On s'inquiétait et nous avons même cru qu'on va arriver à une affaire chez BA2. Bon, voilà, on nous a présenté Christopher Ngoï vivant, en bonne santé. Mais lorsqu'on parle de 10 chefs d'accusation retenus contre lui, incitation à la haine,
insurrection,
voilà, il y a 10 chefs d'accusation.
Incendie volontaire.
Voilà, et on dit même qu'il a eu à réunir les jeunes pour leur demander de casser les magasins de Chinois. Est-ce que Christopher Ngoï est capable de réunir tous les jeunes Kuluna de Kinshasa pour leur demander de casser les magasins de Chinois? Il y a beaucoup de réflexions au sujet de l'affaire Christopher Ngoï. Mais nous aimerions que la justice fasse son travail. La vraie justice. Justice, comme le mot justice le dit, nous voulons que la justice fasse son travail. Que la justice nous dise si réellement Christopher Ngoï a commis toutes ces infractions citées par la police.
Daniel Safou, il y a également incitation à la désobéissance civile et atteinte à la sûreté intérieure de l'État retenue contre Christopher Ngoï. Un mot avant que l'on aborde notre thème de ce soir.
Je me répartis de la sagesse latine. Quid quid la tête apparaît vite. Tout ce qui est caché finira toujours par triompher. Mais en droit, on parle de la présomption d'innocence. Aussi longtemps la personne n'est pas encore jugée, on suppose a priori il est innocent. Vous comprenez? Les respects que je dois avoir à l'endroit de la justice, à l'endroit du droit en tant que science, je suppose que Christopher Ngoï, jusqu'à preuve du contraire, est innocent au nom de la présomption de l'innocence. Ça, c'est deux. Les souvenirs sont là encore, l'affaire Chebeya. On doit avoir du respect aux activistes des droits de l'homme. Ce sont ceux qui, dans l'image, réellement, tel pays, telle société, telle communauté a du respect, n'est-ce pas, à l'homme, l'homme en tant que valeur. C'est ça les droits de l'homme.
Et donc alors, doit laisser la justice faire son travail, comme a dit Laurette
Mandala. La justice
doit
faire son travail et cette justice ne doit pas être instrumentalisée. Du moment où on a relevé les infractions dans les chefs, n'est-ce pas, de Christopher, je me pose la question, est-ce que ces infractions-là sont réellement les infractions?
Merci.
Non, c'est la justice qui doit établir les Merci. Infractions, non les individus.
Merci. Passons à notre thème de ce soir. Vous le savez, la CENI a publié hier jeudi à Kinshasa le calendrier électoral global. Pour l'essentiel, retenez que la présidentielle couplée à la législative aura lieu le 27 novembre 2016. Le 7 décembre, annonce des résultats provisoires. La prestation de serment du président élu est prévue pour le 20 décembre 2016. On écoute un extrait de l'annonce du rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, dans ses propos recueillis par Lievin Mwinga.
Du 24 septembre au 23 octobre, campagne électorale pour les candidats députés provinciaux. Du 9 octobre au 23 octobre 2015, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et conseillers de secteur et chefferie. Le 25 octobre 2015, c'est le jour du vote des députés provinciaux, des conseillers communaux et des conseillers de secteur et chefferie, élections sénatoriales, des gouverneurs, des élections urbaines, communales et locales à scrutin indirect. Le 17 janvier 2016, jour de scrutin pour les sénateurs. Le 31 janvier 2016, jour de scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs, élections présidentielles et législatives. Du 27 octobre au 25 novembre, campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives. Le 27 novembre 2016, jour de scrutin combiné présidentiel et législatif, ouverture des bureaux de vote et de dépouillement, déroulement du vote.
Le présent calendrier électoral présente plusieurs contraintes externes qui risquent d'empêcher sa mise en œuvre adéquate par la Commission électorale nationale indépendante. Pour le rapporteur de la CENI, le gouvernement, le Parlement et la présidence de la République devraient donc prendre des dispositions pour répondre dans le délai aux contraintes liées au respect du présent calendrier. Michel Kifinangoy pour les détails.
Tout d'abord, il faut noter que le calendrier électoral publié revêt un caractère global et national tel qu'exigé par la communauté internationale, la société civile congolaise et quelques partis politiques de l'opposition. En effet, ce calendrier programme en 2015 les échéances provinciales, urbaines, municipales et locales qui sont à ce jour considérées comme des arriérés des cycles de 2006 et 2011 selon la CENI. Les élections présidentielles et législatives nationales, elles, seront convoquées en 2016 conformément conformément à la constitution en vigueur, a affirmé le rapporteur de la CENI. Cependant, il y a lieu de signaler que les dates des différentes échéances électorales sont très proches au point d'exiger beaucoup de contraintes externes liées à la mise en œuvre de ce calendrier. Pour les rapporteurs de la CENI Jean-Pierre Kalamba, la tenue des élections présidentielles et législatives est conditionnée notamment par la mise à jour du fichier électoral, l'exécution du plan de décaissement des fonds et la promulgation de la loi sur la répartition des sièges dont la responsabilité incombe au gouvernement, au Parlement et à la présidence de la République.
Merci Michel Kifindangoy, Laurette Mandala, rédactrice en chef Africa TV, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Le calendrier électoral tant recherché est finalement là.
Voilà, le calendrier électoral, on attendait tous ce calendrier. On a le calendrier global tant recherché. Et je ne sais pas si vous avez constaté que le ciel s'est éclairci un peu. Nous avons le calendrier. Sur le plan de principe, je dirais que c'est bon. Le calendrier est là. Mais sur le plan de l'application, il y a beaucoup de contraintes. Dans la pratique, il y a beaucoup de contraintes. Les contraintes, c'est dont on vient de nous soulever maintenant. Mais ce que nous devons retenir quand même, que le calendrier est là. Le vice-président de la CENI a bien dit que tous les préalables étaient réunis. Par là, je me disais, qu'est-ce qu'il voulait dire par tout le préalable réuni? Il parlait de la promulgation de la loi électorale par le chef de l'État et nécessairement, certainement, des ressources financières déjà disponibilisées. Je crois qu'il a parlé de ça. Mais lorsqu'on nous parle d'un milliard et demi qu'il faut mobiliser encore pour avoir ces élections-là, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à la tenue des élections jusqu'au 27 novembre. Mais moi, je dirais que les choses sérieuses ont commencé. Pour les politiciens, que ce soit du côté de l'opposition, de la majorité ou de ceux qui se disent indépendants, ils doivent maintenant se préparer leurs candidats, apprêter les moyens qu'il faut, apprêter les dossiers de candidats. Et surtout du côté de l'opposition, ils doivent se réunir pour avoir un candidat commun pour les élections présidentielles.
Mais Laurette, qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui pensent que la RDC, la CENI notamment, a cédé à la pression de la communauté internationale qui devenait quand même de plus en plus grande?
Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'il y a eu cette pression-là. La pression, il y a eu la présence des Russes Fingol. Vous avez suivi la déclaration de Russes Fingol. Il a demandé le calendrier global. Il y a l'Union européenne également qui s'est apaisantie sur ces sujets. Et nous parlons également de Martin Kobler,
le représentant
de la MONUSCO. Martin Kobler a dit que la MONUSCO n'attendait que le calendrier global pour soutenir les élections en RDC. Le calendrier global est là. La pression a joué également, mais la CENI a dit qu'elle était dans ses prérogatives. Elle a publié son calendrier à temps réel. Ça, c'est la réponse de la CENI. La CENI, c'est une institution indépendante, mais je voulais dire par là, toutes ces déclarations, c'est bien bon. Maintenant, nous voulons l'application. Ceux qui avaient de l'argent pour la RDC, pour le calendrier global est là, ils doivent mettre l'argent sur la table pour que nous allons aux élections.
Daniel Safou, éditorialiste du journal Point Saillant Plus, un biais hebdomadaire paraissant à Kinshasa, Laurette Mandala dit que les choses sérieuses ont maintenant commencé. Êtes-vous de ce point de vue du moment où l'on sait qu'il y a quand même plusieurs contraintes qui risquent de mettre en mal la tenue et l'organisation de ces élections?
Merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec ma consoeur. J'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement. Les États-Unis ont reçu son coup. Il a reçu son coup dans la mesure où il y a eu pression. Après cette pression, nous avons fait un calendrier, n'est-ce pas?
Vous parlez du passage de Russes Fingol.
Oui, ce n'est pas un passage inutile. C'est pourquoi je dis les États-Unis ont reçu son coup. Encore une parenthèse. On a du mal à écouter la dynamique interne. Quand Vuemba, Kamere, Diongo, tous ces gens-là réclament, n'est-ce pas, les calendriers globaux, on s'en fout d'eux, la dynamique interne. Mais quand il s'agit d'une force étrangère, vite on s'élève, on répond, n'est-ce pas, aux préoccupations. C'est pour dire que les Congos, c'est pour les Congolais. Ceux qui nous dirigent doivent développer une culture d'écouter la dynamique interne avant, n'est-ce pas, d'écouter l'extérieur. Si on avait écouté la dynamique interne, Fingol viendrait faire quoi ici? Je crois qu'il ne viendrait qu'apprécier, n'est-ce pas, l'aveu, n'est-ce pas, de la dynamique interne. Je ferme ma parenthèse. Je reviens avec des preuves tangibles. Regarde, nous sommes en 2014. La CENI dépose, n'est-ce pas, son budget pour 2014, qui revient à 110 millions de dollars. Le gouvernement donne combien à la CENI? 59 millions. Allez vérifier, 59 millions. Les arriériers pour 2015 que le gouvernement doit à la CENI, c'est 110 millions de dollars. Mes amis, si le gouverneur doit évoluer avec des arriérés, la CENI, c'est une structure technique. Vous remarquerez les conséquences facilement. Il a du mal parce que c'est une institution opérationnelle. Il a du mal notamment à sensibiliser la population. Il n'a pas de moyens. Vous comprenez? Donc, si le gouvernement s'hasarde à ne pas financer, n'est-ce pas, la CENI en tant que telle, le calendrier global dont on nous a présenté ne sera que de la théorie. La praxis est ailleurs. La praxis se situe au niveau de l'effort du gouvernement avec Matata. Comment est-ce qu'il va mobiliser les recettes pour enfin, n'est-ce pas, soutenir la dimension technique de la CENI.
Mais Laurette a aussi dit qu'il fallait que maintenant, que les amis du Congo qui ont promis de l'argent à l'issue de la publication d'un calendrier électoral global, ils doivent le faire maintenant.
Attention.
Les États-Unis n'ont donné que 20 millions
attention,
pour la présidentielle.
Attention, nous savons comment la communauté internationale fonctionne. La communauté internationale fonctionne avec ordre, même si on doit financer. On vous donne telle palette, mais vous regardez, les dates sont coincées. Ça, c'est des 1. Nous savons comment on finance de l'argent. Et nous craignons que cela puisse, n'est-ce pas, constituer un handicap pour l'évolution technique, n'est-ce pas, de la CENI. Je reviens. Je pars par l'expérience.
De terminer par là le temps de faire
oui,
parler...
Oui, je pars par l'expérience. L'incapacité du gouvernement, n'est-ce pas,
à mobiliser
les recettes. Parce qu'il n'a donné que 59 millions au lieu de 110 millions.
Or, là, il faut plus d'un milliard.
On peut faire des calculs. Le gouvernement doit de l'argent à la CENI, il les arriérait de 2014.
Voilà.
Or maintenant, il s'agit de plus d'un milliard.
Ça va être compliqué.
Nous avons un gouvernement qui ne nous rassure pas en tant que tel.
Merci,
la
Daniel.
Capacité de mobiliser les recettes.
Est faible.
C'est ça le problème.
Voilà.
C'est faible.
Solange Lucie Kounsimiré, éditrice du journal Le Souverain, paraissante à Bukavu, au Sud Kivu, et également deuxième vice-présidente nationale de l'UNPC. Il faut un coût global de plus d'un milliard de dollars. Est-ce que ce sera facile pour mobiliser cet argent?
Bon, d'emblée, moi, je pense que c'est d'abord un budget gonflé. C'est un budget gonflé sous forme d'artifice. Et pour moi, c'est en fait le résultat même de la précipitation. La précipitation qui se traduit par le manque de volonté politique de fonder les élections. J'essaie de comprendre tous les poids des pressions extérieures qu'il y a eu sur les décideurs au Congo actuellement. Et je me dis, ce calendrier global, c'est pour en finir sans casse avec une population agitée qui attend avec beaucoup de soif les élections. Mais par rapport à ce calendrier, moi je trouve qu'il est vraiment serré. Et tel qu'il est serré, il ne permet pas la bonne tenue des élections. Ce budget qui est aussi utopiste, il est vraiment irréalisable pour la RD Congo d'organiser les élections sur cette période-là, du 24 septembre, peut-être que les dates ont été données. Et moi, je pense que le Congo doit cesser de planifier les choses, de présenter des budgets qui comptent sur l'extérieur. Il faut compter sur nos propres moyens parce qu'il nous faut un budget réaliste et soutenable à la dimension même de nos ambitions en tant que Congolais et Congolaises. De quels moyens nous disposons pour organiser des élections avec un budget de plus d'un milliard de dollars? Et parce que nous devons nous rappeler quand même qu'en plus des besoins politiques, nous avons tout un éventail d'autres besoins, surtout dans le social, qui nécessitent aussi des moyens. Quand on voit la souffrance de la population, on ne doit pas mettre tout cet argent-là dans les besoins politiques pour organiser les élections au moment où les enseignants ne sont pas payés, au moment où on manque des infrastructures, etc. D'ailleurs, même si ce calendrier est présenté de manière officielle, est-ce que les infrastructures routières que nous avons, dont nous disposons, répondent à ce besoin-là d'organiser des élections? C'est des questions qu'il faut se poser tout en sachant que ce calendrier, parce qu'il faut quelque part aussi être optimiste, ce calendrier pourrait être exécuté si jamais il y avait une véritable volonté politique. Malheureusement, selon mon analyse à moi, cette volonté politique reste le plus grand absent du calendrier électoral et même des désirateurs de toute la population, étant donné que certains champions du pouvoir actuel sont le cheval non partant de ces élections. Donc,
Solange,
le pouvoir politique n'y est pas.
Solange, vous parlez d'un budget utopique, d'un calendrier électoral global qui est le résultat de la précipitation. Vous dites qu'il est irréaliste. Entre-temps, c'est la communauté internationale, la société civile qui ont réclamé à corps et à cri la mise en place d'un calendrier. Ne sommes-nous pas là en train de chercher la chose et son contraire à la fois?
Moi, je pense qu'on ne cherche pas une chose et son contraire, parce que ce calendrier pourrait bien être élaboré, présenté à partir de 2014. On aurait un calendrier aéré où, d'une élection à une autre, on aurait le temps quand même de s'organiser. Mais tel que le calendrier est présenté aujourd'hui, il ne permet à personne de s'organiser, même pas aux extraterrestres. C'est un calendrier qui sera difficile à exécuter. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de contraintes autour des élections au Congo. Il y a par exemple tous les contentieux. Il y a par exemple la Cour constitutionnelle qui a été nommée, mais qui n'est pas installée jusqu'à présent. Il y a le découpage des nouvelles circonscriptions électorales, le découpage du pays en 26 provinces, la mise à jour du fichier électoral, tout ça, vous pensez que ça peut être réalisable?
En un mot, ça va être très compliqué.
Il sera très compliqué, surtout que la femme, qui a toujours constitué la majorité numérique par rapport à l'électorat, c'est cette femme-là qui est la grande absente même de toutes les opportunités que pourrait offrir l'occasion des élections à la République démocratique du Congo.
Merci.
Et donc, d'un côté, je vois que ça enfreint quand même tous les droits de la femme.
Merci,
que nous réclamons à corps et à cri.
Merci.
Également. Et ça ne permet pas aux organisateurs d'organiser ces élections compte tenu de l'étendue du pays.
Merci Solange. Prenons à présent les réactions de la classe politique congolaise à l'UDPS. On estime d'emblée que le délai imparti par la Constitution pour l'élection du président de la République n'a pas été respecté. On écoute à cet effet le conseiller politique d'Étienne Tshisekedi, Valentin Moubaké, joint au téléphone par Michel Kifindangoy.
C'est un calendrier qui viole, je répète, qui viole la Constitution. Et je prends pour exemple l'élection présidentielle. L'élection, le scrutin présidentiel, selon l'article 73 de la Constitution, est convoqué 90 jours avant la fin du mandat. C'est pour éviter justement tout ce qui a été tenté jusque-là à travers le recensement, comme préalable aux élections, etc., etc. Et c'est regrettable pour notre pays.
Pour sa part, le président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale estime que ce calendrier respecte bel et bien le délai constitutionnel. Le député Emmanuel Ramazani Chadari félicite la CENI pour ce calendrier qui, selon lui, prend en compte tous les arriérés de 2006 et 2011. On l'écoute.
Un travail, à mon avis, bien fait par la CENI. Je crois que la CENI a été de son indépendance. La CENI a répondu, n'est-ce pas, à toutes les exigences des partenaires et de la classe politique congolaise. C'est, à mon avis, un calendrier acceptable du fait que il organise les élections locales jusqu'au niveau des élections présidentielles.
Et l'UDPS estime que ce calendrier n'est pas constitutionnel parce que, selon M. Valentin Moubaké, la convocation du scrutin présidentiel intervient en novembre au lieu d'intervenir 90 jours avant la fin du mandat du chef de l'État.
Il confond les choses. Moi, j'ai lu, j'ai suivi. Le scrutin sera convoqué 90 jours avant l'élection du président de la République. Bon, et même si ce n'est pas trop à moi, si c'est un mois, il n'y a pas de problème. Vous savez, la CENI a beaucoup de contraintes, notamment les contraintes de temps. Il faut saluer le travail de la CENI.
Le calendrier viole la Constitution, calendrier réaliste, Laurette, on a évoqué tout à l'heure les défis logistiques, les défis au niveau des différentes lois qu'il faut mettre à la disposition de la CENI, les défis financiers, la classe politique déjà là est très divisée, comment vous entrevoyez l'avenir de ce calendrier?
Je dirais le fait que la CENI nous a présenté une avalanche des contraintes, ça fait peur. Pendant que j'écoutais les politiciens, je me suis dit, est-ce qu'il y aura vraiment élection? Est-ce qu'il y aura élection dans ce pays? Avec 1 milliard qu'il faudra mobiliser, que nous n'avons pas, et s'il faut attendre le partenaire, nous connaissons le langage des partenaires, il faut respecter ceci, il
beaucoup
faut respecter cela, il y a beaucoup de contraintes, ça, on est habitué à cela, et moi je vous dis tout simplement que nous avons demandé un calendrier global. Le calendrier global est là, on doit se préparer pour les élections. Commençons d'abord par nous préparer pour aller aux élections. Violation de la Constitution, on voulait ce calendrier global. Tout le monde doit se préparer, même du côté de la majorité. Nous savons que du côté de la majorité, il y a des choses qu'on ne dit pas clairement. Maintenant, ils doivent éventrer le boa, parler déjà du successeur de Joseph Kabila, qui sera le remplaçant de Joseph Kabila. Ce sont des choses qui doivent être traitées. Si nous devons nous concentrer seulement dans ces contraintes-là, ça montre déjà qu'il n'y aura pas élection. Mais espérons que tous ceux qui nous ont promis de l'argent, l'Union européenne, la MONUSCO a promis son appui, le gouvernement doit mobiliser le moyen, on doit tout faire, tout mettre en place pour qu'il y ait élection en 2016. Pas question de glissement.
Daniel Safou, il faudrait finalement mettre en pratique ce calendrier, il faudrait se mobiliser. Est-ce que cela ne passerait-il pas par un dialogue que la classe politique doit convoquer ici et maintenant?
Vous m'avez anticipé, j'allais chiter par là. Le calendrier global, n'est-ce pas, qu'on nous a présenté, doit répondre aux exigences constitutionnelles. Je suis tout à fait d'accord avec Moubaki. Il parle de l'inconstitutionnalité. Il y a une constitutionnalité parce qu'on n'a pas tenu compte des 90 jours. J'ai suivi Chadari qui dit, même si un mois, c'est non, nous devons rester rigoureux dans les principes. Et quel genre de principes? Les principes constitutionnels. Sinon, nous tombons dans ce qu'on appelle l'inconstitutionnalité. D'ailleurs, nous sommes déjà tombés dans l'inconstitutionnalité. Dans la mesure où on n'a pas respecté les caractères qui sous-tend 90 jours avant. Mais par contre, quand vous prenez les calendriers, il s'agit là de 30 jours avant. C'est déjà dans l'inconstitutionnalité.
Alors parlons de ce dialogue au niveau de la
classe politique. J'en arrive. Alors, quand je suis tout le monde, vous sentez que sur le plan technique, ça va poser des problèmes. On doit être honnête vis-à-vis de nous-mêmes, on doit être honnête vis-à-vis de nos familles, on doit être honnête vis-à-vis du Congo et des Congolais. Dans la mesure où, je me répartis d'une hypothèse, admettons que ce calendrier pose problème dans son application, parce qu'il y a des contraintes, qu'est-ce qui va se passer? Souvenez-vous des événements du 19-20. Non, moi je pense il est temps que nous puissions passer à la palabre. C'est la palabre qui peut sauver l'avenir de ce pays. Tu sais que Diwa Mulumba, visionnaire dans son état, il vous réclame les dialogues. Il vous réclame les dialogues.
Alors, ce dialogue devrait porter sur quoi?
Voilà, j'en arrive. Les dialogues pourra, n'est-ce pas, traiter les arriérés liés, n'est-ce pas, à la légitimité du pouvoir. C'est ça le vrai problème du pays, la légitimité du pouvoir. Les élections, n'est-ce pas, de 2011, étant émaillées, n'est-ce pas, des irrégularités. Les ramifications conséquentielles continuent à persister jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Nous vivons dans l'hypocrisie, on fait semblant, mais on est coincé à la peau par rapport au problème, n'est-ce pas, de 2011. Je suis d'accord lorsqu'on dit ce calendrier veut, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, aux arriérés, n'est-ce pas, de 2011. C'est bien bon, mais soyons réalistes, soyons honnêtes. Moi, je pense, tel que le calendrier est présenté, moi, je pense, tel que le gouvernement fonctionne, les 110 millions que la CENI a demandé au gouvernement, le gouvernement est incapable de lui donner ces 110 millions. Par contre, le gouvernement remet 59 millions. Si déjà en 2014, le gouvernement pose des problèmes d'ordre financier, vous croyez qu'en 2015, en 2016, va le faire? Je dis ceci. Je chute par deux possibilités.
La première
possibilité, l'hypothèse qui sous-tend les dialogues, pourra ramener tous les Congolais dans une table pour regarder, n'est-ce pas,
dans la même direction.
Ça, c'est la première.
La deuxième
hypothèse, ce gouvernement ici est incapable de mobiliser les recettes. Ce gouvernement doit démissionner. On cherche un premier ministre capable, à mobiliser les recettes, parce que celui qui est là a montré ses limites, il est incapable de mobiliser les recettes. Il nous faut un premier ministre capable, à mobiliser les recettes, deux, à fédérer tout le monde autour de lui.
Merci.
Parce que nous voulions la paix, parce
Merci.
Que nous voulons la tranquillité, parce qu'il s'agit du Congo, notre pays, c'est
Solange.
Pas le pays de qui que ce soit.
Solange Lusiku, il faut organiser un dialogue inclusif. Pour vous, quelle serait la substance même de ce dialogue au niveau de la classe politique?
Pour moi, ce dialogue-là aurait comme unique objectif de créer ou de monter ensemble une vraie cohésion nationale. parce que on a entendu parler d'une cohésion nationale avec les travaux qui avaient eu lieu à Kinshasa et qui ont abouti au gouvernement de cohésion nationale. Mais lorsqu'on regarde, on regarde de plus près, on trouve qu'au lieu de la cohésion, c'est vraiment la confusion. Et moi, je pense que pour qu'il y ait un dialogue, il faut toucher toutes les couches, les couches sociales, politiques de ces pays, pour que tous ensemble, en mettant leurs intérêts égoïstes de côté, réfléchissent sur l'avenir du Congo. Parce que tous ces gens-là qui parlent du Congo, qui planifient des activités pour le Congo, ils ne voient que le présent, ils oublient l'avenir, ils oublient la jeunesse qui doit aussi vivre après eux. Et cette cohésion nationale, moi j'aimerais qu'une fois réfléchie, une fois planifiée, que ce ne soit pas un dialogue des Quinois, que ce soit un dialogue des Congolais, où les Congolais de tous les coins et recoins du pays se retrouvent pour mettre sur la table des questions qui se posent et pour qu'ensemble ils trouvent des solutions.
Alors, Laurette, ce dialogue, ce doit être la communauté internationale qui l'organise ou les Congolais eux-mêmes peuvent se fédérer?
Les Congolais eux-mêmes sont capables d'organiser ce dialogue, mais il faut rentrer dans le corps de l'accord d'Addis Abeba. Il faut qu'il y ait la communauté internationale pour qu'on ait le vrai dialogue tel que réclame l'opposition. Nous avons eu les concertations nationales. Les concertations nous ont donné un gouvernement de cohésion nationale. Il n'y a pas cohésion nationale. Ceux qui sont dans le gouvernement ont été abandonnés, rejetés par leur parti politique. Il faut un vrai dialogue pour qu'on ait un calendrier consensuel, un calendrier qui sera accepté par tout le monde, un calendrier réaliste, parce que maintenant nous sentons qu'il sera difficile avec les dates serrées, que nous allons aux élections avec le calendrier que vient de nous présenter la CENI. Voilà, le calendrier global est là, il faut aller au travail.
Et donc ce dialogue, ça reste selon vous l'une des portes ouvertes, des solutions pour l'instant?
Le chef de l'État lui-même m'a toujours dit que sa main était restée tendue, sa main est toujours là pour le dialogue. L'opposition réclame un vrai dialogue depuis toujours. L'opposition a toujours réclamé un vrai dialogue. J'ai entendu quelqu'un dire, un député dire, un dialogue qui va nous amener à avoir un calendrier consensuel. Mais qui l'avait écouté à l'époque? Personne. Qui l'avait écouté? Personne. Lorsqu'on parle de dialogue, du côté de la majorité, on pense que le dialogue nous amène toujours au partage du pouvoir. C'est l'image que nous avons du dialogue en République démocratique du Congo, avec un calendrier qui ne profite à personne. Je ne crois même pas que dans le rang de la majorité, ils sont heureux de recevoir ce calendrier. Il faut aller au dialogue, préparer un calendrier consensuel, un calendrier réaliste, où les dates ne seront pas serrées, telles que nous voyons aujourd'hui.
Alors, on est déjà vers la fin de l'émission. Il faut conclure, Laurette. Comment vous entrevoyez l'avenir à partir de la publication de ce calendrier?
Ben, je ne serai pas une prophétesse de malheur. Je dirais que c'est vrai que l'avenir est encore sombre.
Mais il faut appeler les Congolais à l'unité et à avoir dans le même sens.
Encore sombre, mais nous avons le devoir de protéger notre nation. Nous avons le devoir, nous en tant que Congolais, de nous unir, de trouver un compromis, d'aller de l'avant, de travailler dans le sens de l'avancement et non pas de travailler en reculant. Il y a un calendrier global qui a été publié. Il faut que la classe politique se réunisse, qu'on trouve un compromis pour qu'il y ait un calendrier consensuel de manière à ce que les élections se tiennent en bonne et due forme.
Voilà. Daniel Safou, je vous ai vu demander instantanément la parole. Ce dialogue reste la solution miracle?
Oui, ces dialogues, ici je m'adresse personnellement au chef de l'État Kabila. Les Congos étaient morcelés. Et il a fallu s'en citer 1+4 pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça revient à Kabila. C'est une fierté pour lui. Les avancées qu'on a réalisées sur le plan démocratique, on ne doit pas perdre ces avancées. On ne doit pas perdre.
Il faut les capitaliser.
C'est sa force. Il est jeune. Il fait son entrée dans l'histoire, n'est-ce pas, de ce pays. Il restera inoubliable pour avoir ramené le Congo morcelé et revenir un Congo uni. Coup de chapeau à Joseph Kabila. Mais il ne doit pas perdre ce qu'il a fait. Il ne doit pas perdre les avancées que nous avons réalisées. Mais voilà où Kabila peut protéger son aisance, peut protéger sa fierté, peut protéger les Congos qu'il a occasionnés, qui étaient démorcelés. De côté Roubaix-Rois, Jean-Pierre Bemba, vous le savez.
Et en guise de conclusion, Daniel.
En guise de conclusion, c'est le Kabila qui joue à sa sagesse.
les dialogues n'ont qu'une seule conséquence, que nous puissions tomber dans les consensuels, comme a dit Madame.
Et donc la balle est dans la classe.
S'il n'y a pas consensus, c'est dangereux.
Merci.
Solange Congolais.
Solange Lusikou, pour clôturer, Daniel Safou dit que la balle n'est pas dans le camp de la classe politique, mais particulièrement dans le camp du chef de l'État qui doit jouer à la sagesse. Qu'est-ce que vous en pensez en guise de conclusion?
Moi, je pense plutôt que la balle est dans les camps du peuple congolais. Si le peuple congolais trouve qu'il est très impérieux et même important qu'il y ait un dialogue à la place de ces élections précipitées, c'est au peuple de se prononcer. Et le chef de l'État, il a l'obligation d'écouter le peuple. Parce qu'aujourd'hui, même si on s'en tient à ce calendrier électoral, déjà dans la majorité présidentielle, on ne sait pas qui pourrait remplacer Joseph Kabila dans les camps de l'opposition. Ils ne sont pas organisés. Il faut ce dialogue.
Merci.
Et ce dialogue, c'est à tout le monde de s'investir là-dedans. Ce n'est pas seulement au président de la République.
Voilà, nous avons terminé l'émission. Le temps, c'est le temps, Daniel Safou. Le temps, c'est le temps, malheureusement. L'émission est terminée. Guy Maté a assuré la réalisation. Mise en onde, Dieudonné Nyangassa. Supervision, Ben Kabamba. Coordination et présentation, Alain Roumouchi. Merci de votre attention. Au revoir.